Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Eric Delvaux.
Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde des débats et vous êtes l'une des voix de France Culture. Et votre dernier livre revisite l'année 1969 à l'aune de l'année précédente, 68. Et le titre de votre livre, 1969, année fatidique. Une façon de répondre, je disais tout à l'heure, à l'année érotique de Serge Gainsbourg, 69. Tout est parti de là, écrivez-vous, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie ou encore dans certains pays de l'Est. 69, vous dites que nous en vivons, voire subissons encore les conséquences, principalement sur l'ère du désenchantement. Pourquoi ce désenchantement en 69?
Je suis parti d'un constat. L'année 68 a été célébrée de manière un peu ridicule et excessive au cours de l'année précédente.
À peine célébrée, hein.
Ah, oui, le président de la République nous a épargné le ridicule de reconstituer une barricade de la rue Gay-Lussac avec Cohn-Bendit en costume d'époque, disons. Mais on nous a fait tout un siècle autour de 68 comme s'il y avait des réserves d'énergie révolutionnaire qui étaient encore disponibles et qui auraient pu, par exemple, éclater avec, qui sait, les nuits debout, les gilets jaunes et j'en passe. Non, en fait, ce que je montre dans mon livre, c'est que 68 a été le premier chapitre de mon livre, parce que le livre est consacré à l'année 69 précisément.
Mais à l'aune de 68 tout de même.
Ah oui, 68, c'est un échec global et général et complet. Le socialisme à visage humain en Tchécoslovaquie est écrasé par l'armée rouge. Le soulèvement des étudiants américains en 68 qui donne à la Convention démocrate de Chicago en 68, c'est le candidat qu'ils n'aimaient pas, Herbert Humphrey, qui est désigné comme candidat de gauche, et c'est Nixon qui va gagner.
C'est le pire candidat, dites-vous, pour opposer à Nixon.
Mais bien sûr, il y avait Bob Kennedy, il est assassiné en 68, et je ne parle pas évidemment du mai 68 dont on nous rabat les oreilles, alors que ça a donné l'Assemblée nationale la plus à droite de notre histoire. Donc, comme résultat formidable, non. Non, 68, c'est un tel échec qu'en 69, on paye cet échec.
C'est-à-dire que c'est la naissance d'une impuissance démocratique à partir de là?
À partir de 69, les échecs de 68 se traduisent par une radicalisation de ce qui reste des mouvements étudiants. La plupart, en réalité, des militants du SDS, par exemple américain, ou du SDS allemand, rentrent dans les communes et vont faire tout autre chose, vont s'occuper de leur petit égo dans des communautés, et vont faire ce qui va donner finalement le développement personnel aujourd'hui, tout simplement, parce que, comme je me dis, 69 nous a légué beaucoup de choses, le développement personnel ou la politique des identités. Parce que quand le mouvement étudiant éclate, il se parcelle, ils se morcellisent, et ça donne, eh ben, alors, le mouvement, ce qu'on appelle the personal is political, hein, ça veut dire que les homosexuels vont lutter pour leur propre cause, les femmes vont découvrir qu'elles sont traitées comme des Marie couche-toi là dans les mouvements étudiants, et elles vont développer un féminisme très, très différent, et puis les Indiens, etc., et ça donne la politique des identités qui mine la gauche américaine aujourd'hui et qui lui fait perdre les élections, et qui risque demain de miner la gauche française parce que c'est en train de se développer aussi.
Vous avez parlé du SDS, je précise que c'est ce grand mouvement estudiantin américain qui avait été piraté par une bande de fous furieux qui faisait la promotion de la mort. Je reviens en France, dans ce livre, Brice Couturier, vous donc désacralisez l'année 1968, vous l'avez dit, par la fin des idéaux de gauche. Vous ne retenez que ça de l'année 68, il n'y a pas d'élan positif de cette année?
Si. Alors, et encore, 68, comme je montre en 69, il y a des occasions perdues. Les 60s ont été porteuses d'idées d'émancipation, de lutte contre les hiérarchies, de libération personnelle, etc. Sauf qu'en 69, ça culmine en une espèce de feu d'artifice autodestructeur. Comme disait Julien Clerc quelques années plus tard, je crois que c'est une chanson de 71 ou 72, vous me corrigerez peut-être, à trop vouloir nous libérer, nous avons fini par trouver d'autres barreaux bien plus épais. C'est dans une chanson qui s'appelle « L'éléphant est déjà vu » qui doit être encore une fois des débuts des années 70. Mais c'est un constat qu'on fait en 69, parce qu'en 69, vous avez, et le film de Tarantino le montre fort bien, parce que c'est une reconstitution de l'année 69, c'est pas par hasard que Tarantino est sur ce sujet-là.
On va en parler après Tarantino, d'accord, et de son dernier film.
Ça culmine avec Altamont, où on massacre d'un jeune noir qui vient écouter du blues chanté par des Anglais blancs, les Rolling Stones. C'est la famille Manson qui assassine Sharon Tate dans des conditions effroyables. Mmh. Et c'est des groupuscules gauchistes américains dingues qui se font les disciples de Charles Manson en remplaçant
dingue
le point.
Drogué, hein,
oui, bien sûr. Le
la
point le
n'a
remplaçant.
Pas joué un rôle
c'est négligeable. C'est un rôle considérable. 69. Si vous voulez, il y a l'idée de l'expansion de la conscience, l'idée de la fin des interdits et la drogue. l'époque est omniprésente en 69. Enfin, aux États-Unis, en France, on est encore. Vous savez, on est très loin de l'œil du cyclone en France.
Et vous parliez de la Californie, je crois, et de Julien Clerc. Je pense qu'il chantait justement la Californie dans ces années-là. On est passé de l'été de l'amour en 67 à 2 ans plus tard. Donc c'est l'apologie de la mort qui arrive en 69.
Ben, vous savez, là encore des chansons, parce que mon bouquin est plein de films et de chansons. C'est pas tellement politique finalement. Enfin, c'est aussi politique. Mais pensez à la chanson des Doors, Break on Through to the Other Side. C'est un message très fort, dionysiaque. C'est une façon de dire, passer de l'autre côté du miroir. Et de l'autre côté du miroir, c'est la mort. Quand on pousse à la limite l'idée de la transgression de manière dionysiaque, on aboutit effectivement au chaos. Et le chaos, on l'a vu à Altamont, ça a été épouvantable, parce qu'il n'y a pas eu qu'un mort. Il y a eu des batailles rangées avec les Hells Angels qui étaient bourrés de LSD et de bière que les Rolling Stones leur avaient donné pour assurer la sécurité de leur concert. C'est quand même quelque chose d'épouvantable.
C'est une époque, comme on dit.
C'est toute une époque, oui, comme vous dites.
On parlait de l'été de l'amour, Summer of Love. Il y a un Français qui va en faire l'expérience dans cette année 69. C'est Edgar Morin. Il est parti explorer la contre-culture américaine. Qu'avez-vous retenu de son journal de Californie avec ses séquences psychédéliques?
Alors, j'ai plongé dans les documents d'époque. Hein. J'ai été lire la presse de l'époque, les quotidiens, les hebdomadaires de l'époque et les bouquins des gens qui en parlaient, comme Romain Gary, qui était sur place en Californie à l'époque, et puis comme Edgar Morin, qui, par chance, a tenu son journal intime pendant tout le temps où il était en Californie
quelques
en 69.
Mois à l'université de Berkeley.
Oui, mais c'est fantastique, parce que comme il foutait rien, il prenait des notes tout le temps, il allait à des concerts de pop, c'était un type très ouvert. Et ce qui montre en particulier, c'est le fait que il est au cœur du cyclone High Street, Ashbury, où il y avait le mouvement hippie dans les années 60, et il montre que c'est devenu très dangereux, que dorénavant les hippies qui traînent là sont héroïnomanes, que la libération sexuelle maintenant c'est on prostitue sa copine pour avoir sa prochaine dose d'héroïne, que tout le monde est en ruine, que le côté flower power, les vêtements excentriques, etc., les tenues indiennes, ça a été remplacé par des guenilles infâmes, parce que tout le monde est, et ça encore dans le film de Tarantino, vous voyez la famille, ces malheureuses gamines sont habillées avec des loques,
et elles sont nourries dans les poubelles. L'ironie qu'il pouvait y avoir, l'ironie, elle disparaît complètement aussi.
Exactement, Patricia Martin. Je suis content que vous disiez ce mot-là. Parce que comme par hasard, 69, c'est la dissolution des Beatles.
Et les Beatles, c'est John Lennon qui quitte les Beatles en 69.
Ah, ils décident de l'autodissolution des Beatles.
Ils
l'annoncent plus tard, mais ils ont décidé en 69 de se séparer. Parce qu'ils se supportent plus mutuellement.
Et il faut dire que Kono est arrivé entre-temps, la compagne de John
Lennon.
Il
dit tout de suite que ça vient des femmes.
Ça vient de Yoko Ono. Vous y voyez une femme, j'y vois d'abord Yoko Ono.
Non, mais
parenthèse refermée.
Ils se supportaient plus mutuellement. Et à mon avis, l'album blanc qui sort en 69 est un échec esthétique complet, parce que chaque morceau appartient à un des Beatles, mais Abbey Road. Mais quand les Beatles se liquident, s'auto-liquident, ça veut dire que cette ironie dont vous parliez, Patricia Martin, cette petite dose d'humour de second degré a disparu. On est le nez collé à l'événement. On n'a plus cette distance ironique qu'on a eue pendant toutes les 60s.
À ce propos, vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr à l'onglet réagir ou intervenir sur l'appli France Inter. Constantin nous vous demande, Brice Couturier, si vous pensez que Quentin Tarantino a bien saisi cet esprit 69 dans son dernier film, notamment dans sa caricature du mouvement hippie.
On l'a traité de réac, hein.
Qu'importe. Oui, un des problèmes qu'on a également avec cette époque, c'est que la critique de 68 a été monopolisée par les conservateurs, ou ça soit aux États-Unis, en Allemagne ou en France. Et donc, on peut plus en parler normalement. Vous avez soit les nostalgiques. Enfin,
je fais une parenthèse sur le titre du film de Tarantino. Ça s'appelle Once Upon a Time in Hollywood. Il a préféré installer son histoire en 69 plutôt qu'en 68.
Hein. Et comme par hasard, parce qu'il fait le même constat que moi. C'est en 69 que les choses vont mal. Et son film tourne autour de l'affaire de la famille de Manson, de Charles Manson et de l'assassinat de Sharon Tate. Sauf que vous savez, enfin, je ne veux pas dévoiler la fin à ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il faut absolument voir ce film.
Oui, parce que la fin, elle est.
C'est pas Sharon Tate, voilà. C'est plus Sharon Tate et ses amis qui sont assassinés, ils attaquent quelqu'un d'autre. Mais passons. Bref, la reconstitution. Moi, j'ai vécu cette époque, hein. Pas aux États-Unis, hélas.
On va en parler dans un instant. On va y revenir.
Mais oui, d'après tous les films, parce que j'ai revu tous les films de 69, évidemment, c'est une reconstitution, celle de Tarantino, prodigieuse. Parce qu'il n'y a pas seulement, les voitures d'époque, il n'y a pas seulement les costumes d'époque, mais il y a la mentalité, il y a l'esprit, il y a le fait que tout est ouvert, que tout semble possible.
On ferme pas sa porte le soir quand on va se coucher.
Jusqu'à l'affaire Manson, on ne fermait pas sa porte. J'ai vu des témoignages, j'ai lu des témoignages d'époque très très significatifs là-dessus. Vous aviez tous les quartiers hippies qu'on repérait dans toutes les grandes villes américaines où il y avait toutes les portes étaient ouvertes. Et bien, à partir de Manson, tout le monde ferme à double tour ses clés.
Et achète des armes.
Et ça aussi, c'est le legs qu'on a aujourd'hui. Parce que ce sentiment d'insécurité face à la montée d'une violence qu'on ne sait plus gérer, c'est ce que aussi nous avons sous les yeux aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop de parallèles avec 69, mais il y en a un à faire là.
Et pour le cinéma de 69 aux États-Unis, il y a aussi Last Summer, cette vie d'adolescente qui va se terminer, cette insouciance, par un viol collectif.
On peut dire ça.
Et en France, ce sera le film La Piscine. Là aussi, encore le chaos et la désillusion.
Oui, c'est fantastique parce que vous voyez, on assiste à la fin de l'été et vous savez, dans la production culturelle de 69, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, elle est marquée intégralement sous le signe du désenchantement et le thème de la fin de l'été est omniprésent dans les chansons et dans les films, en particulier ce film The Last Summer ou La Piscine. La Piscine, vous vous souvenez, à la fin, on voit les feuilles qui tombent dans la piscine parce que c'est la fin de l'été. Et en plus, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'Alain Delon est soupçonné d'un crime qu'effectivement il a commis dans cette piscine et qu'au même moment, le même Alain Delon est impliqué dans l'affaire Markovitch. Oui. Parce qu'elle date de 69 aussi, l'affaire Markovitch. Et il a été interviewé, figurez-vous, pendant le tournage du film par la police.
Donc, comme quand il est interviewé par la police dans le film.
Exactement. Donc il y a un effet de réalité surprenant. Quoi.
Juste pour préciser d'où vous parlez, hein, Brice Couturier, en 68, vous aviez à peine 20 ans, 18, 19
19.
Ans.
19 ans. Alors, en 68, j'avais 18 ans. 18 ans. J'avais 19 ans.
Paul, c'est ça?
Comment?
Vous aviez un pseudo?
Oui, alors bon, je fais quelques brèves allusions, mais c'est pas le but.
Parce
du
que vous
livre,
étiez dans les cellules rouges du PCF.
Oui,
hein.
Non, PCMLF, beaucoup plus grave.
PCMLF.
Ah oui, attention.
Mais vous n'étiez pas dupe.
Mais si, pendant peut-être 2 ans, 3 ans, j'ai été une espèce de militant maoïste délirant.
Non, mais ça, c'était pour une fille.
C'était pour une fille. Ça excuse
ça faisait mieux. Ça faisait mieux de dire qu'on était maoïste plutôt que
PSU. Parce que moi j'avais adhéré au PSU en 68 quand j'étais encore lycéen.
Parti socialiste unifié.
Parti socialiste unifié, Michel Rocard et tout, c'était vraiment une bonne idée. J'aurais dû continuer franchement. Mais en Hippocagne, j'ai tombé sur un type qui m'a plu et il m'a dit je suis maoïste. Alors, il y avait une très jolie fille derrière lui, et j'ai dit moi aussi. Parce que j'ai dit un socialiste unifié, franchement ça tient pas la route. Mais un maoïste, ça vraiment ça, je sais, je peux vous dire à l'époque.
Ouais. Est-ce que vous aviez conscience déjà en 68 depuis 69, de l'impasse qui se dessinait à vouloir faire la révolution.
On vivait dans une espèce de divorce intérieur, intime, personnel, permanent. Parce qu'on avait des modes de vie qui étaient délirants, anarchiques, sans règles. Et on avait des groupes, on était dans des groupuscules qui nous prêchaient une forme de puritanisme ahurissant. Vous n'avez pas idée. On nous disait qu'il fallait se couper les cheveux pour pouvoir parler avec les ouvriers, sinon ils ne nous aimeraient pas. Il fallait surtout pas se droguer parce que sinon la police pourrait nous faire chanter. Les homosexuels étaient extrêmement mal vus dans les groupuscules. On l'oublie ça aussi. Et puis alors les femmes étaient traitées de façon infernale, mais on avait une double vie parce que beaucoup d'entre nous appartenaient en réalité à la contre-culture et avaient un pied dans la contre-culture et un pied dans le militantisme gauchiste. Et honnêtement, c'était incompatible.
Et 69, c'est donc le retour à l'ordre, à la radicalité et cet ordre notamment dans les mouvements étudiants de l'époque. Que vous
69.
Avez bien connu, 69.
Ce qui se passe en 69, c'est l'éclatement. En 68, on l'oublie toujours, mais il y avait un mouvement, c'était l'UNEF, comme vous aviez le SDS aux États-Unis.
Qui est devenu l'UNEF idée par la suite.
Oui, ça c'est le Parti communiste qui l'a créé. Mais en 69, l'UNEF éclate. Il ne reste plus que le PCF qui crée sa tendance, l'UNEF du PC, et les trotskistes, une secte trotskiste, la JS, qui reste. Tous les autres éclatent en... Alors vous avez 4-5 sectes trotskistes, 4-5 sectes maoïstes, qui au lieu de faire de la politique... révolutionnaires, luttent les unes contre les autres et ne font rien d'autre. L'énergie est entièrement perdue et le problème c'est qu'une bonne partie de la génération à laquelle j'appartiens a fait ses classes politiques dans ces conditions-là, moi compris. Et donc ça donne...
Mais s'il n'y avait pas eu 69, la gauche serait arrivée au pouvoir avant.
Mais c'est ce qu'a dit Mitterrand. Quand on demandait à François Mitterrand à quoi a servi mai 68, il répondait à retarder de 10 ans l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais c'est exactement ça. Parce que la gauche était prête de gagner en 67. Très très prête. En 68, elle prend une claque fantastique. 68, à cause des événements.
68 en France, c'est aussi quelques tentatives de réforme des universités. Et en 69, Chaban-Delmas n'a pas pu ou n'a pas su concrétiser cet élan de changement et de réforme.
Alors là, moi, je me suis, encore une fois, je me suis penché avec autant d'objectivité que possible sur les journaux de l'époque et les événements de l'époque. Moi, qui étais évidemment d'extrême gauche à l'époque, je vomissais Chaban Delmas. Quand je vois son discours à l'Assemblée nationale quand il était institué Premier ministre, je me dis, on a loupé une chance là.
Mais il y pourquoi avait l'essai quelqu'un. N'a pas été transformé avec Chaban Delmas?
Parce qu'il n'avait pas de majorité. Il avait une majorité d'extrême droite qui voulait prendre sa revanche sur les événements de mai. Et lui, il était entouré de gens de la CFDT comme Jacques Delors, qui était son conseiller personnel et qui lui disait, la société est bloquée, il faut la débloquer. Et il avait un programme formidable. Mais Mitterrand, justement, à l'époque, j'ai aussi relu les discours de Mitterrand à l'époque, lui a dit, monsieur le Premier ministre, quand je vous entends votre discours, je suis pleinement d'accord avec vous, mais quand je regarde votre majorité, je sais que vous ne pourrez rien faire. Mmh. Et la réforme de l'université, c'est évidemment une réforme ratée, parce que Edgar Faure, vieux radical de gauche, de passé gaulliste, se trouve coincé entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est sa propre majorité, l'enclume, c'est nous, les crétins de gauchistes, qui essayons d'empêcher la réforme. Forme en question.
68, mais on va revenir aux États-Unis. C'est aussi l'année où Bob Kennedy a été tué. C'était un espoir de concrétiser les démocrates à la Maison-Blanche. Et finalement, ils ont choisi, vous le disiez tout à l'heure, Hubert Humphrey, qui n'était pas le meilleur candidat pour représenter les démocrates. Et donc, c'est Nixon qui est passé. Cette période aura été d'ailleurs très, très dangereuse en général pour les hommes politiques.
Ah bah aux États-Unis c'est effrayant parce que vous avez Martin Luther King, Bob Kennedy, il y avait eu d'abord son frère John et ce qu'on a totalement oublié aujourd'hui c'est qu'en 69 se multiplient les attentats aux États-Unis. Il y en a plus de 1000 aux États-Unis la même année 69, ça devient délirant. Dans les facs on met le feu partout, c'est une période extrêmement dangereuse. Les étudiants sortent armés des amphis qu'ils occupent, enfin c'est, on se rend pas compte. Et en 69 vous avez en Italie, parce que je parle aussi beaucoup d'Italie dans mon livre,
ah oui, les années
vous avez
de plomb
le fameux
en
attentat,
oui.
Le fameux attentat de la Banque d'Agriculture de Milan.
Et ces années de plomb, pas seulement en Italie, aussi en Allemagne, c'est l'année de la bande à Bader, les fractions armées rouges. Et ça va, dites-vous, générer, construire le terrorisme d'aujourd'hui. De quelle façon ?
Ah non, j'irai pas jusque-là. Non, ce que je dis, c'est que les années de plomb allemande et italienne commencent en 69, mais le terrorisme auquel nous assistons aujourd'hui, c'est un terrorisme d'un autre genre. Par contre, ce qu'il y a en 69, qu'on ne dit jamais aujourd'hui, c'est le tournant antisémite d'un certain nombre de dirigeants et de militants importants de l'extrême-gauche allemande. Horst Mahler, l'avocat de la bande à Bader, l'avocat de toute l'extrême-gauche, finit, quand il est en prison à cause des attentats qu'il a commis, il se tourne vers le révisionnisme, et quand il sort, il salue un journaliste qui l'interviewait, le bras tendu, en criant « Heil Hitler !» Et ce type est encore en prison. Et vous avez, je cite, d'autres cas de dirigeants gauchistes allemands de l'époque, qui sont devenus de francs antisémites aujourd'hui très ouverts.
1969, cette année plus importante pour la France et pour le monde, et l'Europe en particulier, et les États-Unis. 69, année fatidique, tout est parti de là, écrivez-vous dans ce remarquable livre bien documenté, ça paraît aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Brice Couturier d'être
venu
en parler ce matin sur France Inter.